Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des outils et des stratégies pour vous aider à monter votre marque. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Aurélien Arbé de Études ou Études Studio. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Donc Aurélien Arbé, cofondateur et directeur de création de la marque Études.
Très bien. Et ma deuxième question, tu la connais déjà, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance, si tu penses que ça a du sens de la partager avec notre audience, et puis nous expliquer un peu ton parcours avant la création de Études Studio jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est quand même une belle et longue histoire.
Ça fait un petit moment, oui, que ça dure et qu'on travaille et qu'on évolue dans ce milieu-là. Mmh. J'ai envie de dire que les choses ont commencé à l'âge de 15-16 ans.
Ouais.
Je faisais des graffitis, donc des dessins, des tags dans la rue. Et ça a été un peu le premier geste qui m'a fait rencontrer la création en général. L'idée de créer quelque chose par soi-même, de le présenter aux autres de manière légale ou illégale, c'était ça aussi qui était intéressant de jouer là-dessus à l'époque.
T'as grandi à Paris ?
Non.
D'accord.
Donc tout ça se passe en banlieue de Grenoble, dans une petite ville.
D'accord.
Et voilà, et c'est à ce moment-là où donc je rencontre Jérémy Aigri, un autre cofondateur d'études et autre directeur de création. Mmh. Donc voilà, où on fait des graffitis ensemble, on a nos premiers projets, on essaye d'aller un petit peu plus loin que uniquement peindre sur les murs. Et donc on se met un peu au graphisme, au logo, voilà, l'idée un petit peu de concrétiser tout ça. On fait des projets pour des gens qui nous demandent voilà, de dessiner des choses pour eux.
Mais concrètement, c'était quel genre de projet? C'était pour la pizza YOLO du coin ou c'était...
Non. Non, c'est plus des choses liées à la ville, des choses associatives.
D'accord.
Un événement, une foire autour du skate ou un truc autour du snowboard, parce que Grenoble, voilà, il y a les montagnes et il faut décorer un mur et voilà, on se
retrouve. Il y a comme une culture skate et snowboard
très importante, dans laquelle nous indirectement on était impliqués, mais on était plus sensibles à la culture hip-hop quand même, mais qui était pas si loin que ça, mais voilà, nous on était quand même plus du côté hip-hop avec le rap, le breakdance, le graffiti, voilà, c'était un peu plus ça. Mais toujours voilà, en regardant évidemment Paris, mais en ayant voilà cette scène locale qui s'est montée déjà depuis. Nous on est un peu la deuxième génération sur cette
sur ce créneau,
sur cette ville là, voilà, et puis en regardant encore plus loin les États-Unis qui ont vraiment lancé le mouvement. Donc voilà, donc ça c'est un peu les débuts, et puis après ça évolue par le fait de faire les Beaux-Arts. À Annecy d'abord, et après à Nîmes, voilà, donc là c'est plus vraiment un super apprentissage de la création, avoir du temps, là j'ai 18 22 ans quoi, c'est vraiment jeune quoi. Et puis c'est des supers années, et puis assez vite avec Jérémy on est toujours en contact, on fait toujours des choses ensemble, et assez vite à la fin de des études, l'idée est pas de devenir artiste mais plutôt de concrétiser toute cette énergie et cette recherche dans un projet concret.
D'accord.
Et donc du coup on monte notre première, au début c'est une association, puis après assez vite c'est une première société, on monte notre première marque de vêtements.
Ok.
Qui s'appelle X7. Ouais. Donc ça c'est dans les années 2000. Et là, on est vraiment, on évolue dans le milieu streetwear, mais de l'époque, quoi. Ouais. Donc, avec des marques comme Comate, Bullrot, Kumpaz, Triad, voilà, beaucoup de marques parisiennes.
Ouais. Qui voilà, ont complètement disparu de la.
Qui ont complètement disparu. La seule qui reste est c'est Homecore.
D'accord, ok, c'est cette époque-là.
Qui est déjà de cette époque-là et qui est vraiment, oui, une des marques, qui est la marque leader peut-être de l'époque, et qu'on adore et que voilà qu'on regarde et voilà, donc c'est une des seules marques qui finalement est restée effectivement. Ouais. Voilà, donc on fait nos armes là-dessus. En parallèle de ça,
et ça, vous étiez déjà à Paris ou vous étiez
encore non à Grenoble.
Grenoble, d'accord.
Grenoble, à ce moment-là.
Ouais. Il pleut.
Il se met à pleuvoir. Et puis voilà, on fait ça pendant plusieurs années. Donc on apprend le milieu, on apprend à faire de la mode, on apprend à designer des produits, à fabriquer du produit.
Et là, donc là, c'est the tough way, quoi. C'est à l'époque, vous allez acheter des t-shirts, vous posez des logos dessus. Comment ça se passe?
Ouais, au tout début c'est ça, mais après assez vite on se retrouve à visiter des usines, à fabriquer nos propres supports, à travailler autour de sérigraphie, des broderies, des marquages, le packaging. En fait, c'est ça qui nous intéressait. Hein. C'était vraiment créer une histoire de marque, n'ayant jamais appris la mode en tant que telle. On est vraiment sur tout ce qui est autour. Mmh. Et puis le produit, à l'époque, il est assez simple, mais on commence quand même à mettre à s'impliquer là-dedans dans la fabrication. Mmh. Et puis assez vite, on se rend compte qu'on est qu'on a envie de faire plus. On a envie que les vêtements soient plus travaillés. Et donc, du coup, on rencontre José Lamali, ouais, qui est donc lui est styliste, via un ami en commun et qui commence à designer des produits pour nous. Donc voilà, donc on travaille ensemble sur les collections, lui sur le produit, nous sur les couleurs, l'habillage, les matières. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. En parallèle de ça, on rencontre déjà depuis un petit moment, on a Antoine Bélécan qui s'occupe de la vente,
ouais,
qui
commercial,
partie commerciale, ouais. Et on a Marc Botorel qui, là je parle de toutes ces personnes parce qu'ils sont toujours là aujourd'hui en
ouais,
fait.
C'est, ouais, c'est ça.
Marc Botorel qui lui prend toute une partie plus à finance, administrative, gestion, logistique. Donc voilà. Et on travaille avec Nicolas Poyot aussi, qui est donc lui travaille sur la partie édition. Mm. Donc on lance une maison d'édition. Là, on remonte en 2007, où on fait au départ des fanzines, des livres d'artistes, des micro-éditions. Mais voilà, il y a tous ces gens-là qui végètent, qui travaillent autour de nous, qui sont dans notre entourage. Et c'est des projets un peu séparés. Donc, on a X7 pour la partie vêtements. Pour la partie édition, ça s'appelle « Je suis une bande de jeunes ».
Oui.
Et avec Jérémy, nous, on travaille toujours en tant que directeur de création, directeur artistique pour d'autres marques, pour d'autres projets. Voilà, on fait de la prestation de service, un peu comme une agence de com ferait, quoi. Donc, on a un peu trois casquettes.
Toujours à Grenoble.
Alors non, d'entre-temps ça a pas mal changé. On a déménagé à Barcelone.
Ah ouais.
On est resté quelques années là-bas. Ensuite Lyon. Ensuite pour certains Paris. Mmh. Et pour ma part New York. À la fin, moi je suis à New York en 2010, je pars à New York.
Ouais.
Et puis, donc non, il y a eu pas mal de changements. On travaille à distance. Skype est notre meilleur allié.
Ouais.
Mais toutes ces personnes-là, on reste très liés. On travaille tous les jours ensemble. Mais c'est des projets parallèles. Et Jérémy et moi sommes le liant de tous ces projets-là.
Mm-hmm.
Et puis, en 2011, on a un peu plus de 30 ans. Et on se dit, bon, c'est... c'est le moment, là, on se pense qu'on a fait nos armes, on a envie de partir sur un projet qui nous ressemble maintenant. Et donc, on décide de lancer un nouveau projet qui rassemble toutes ces disciplines et qui se veut novateur, qui se veut ambitieux, qui se veut arriver sur sur un marché qu'on maîtrise mieux, avec une connaissance des réseaux, on veut arriver assez fort, quoi. Donc, 2011, on réfléchit à ça, on réfléchit à études, on explique à tout le monde que X7 va devenir études, et que JSBJ, Je suis une bande de jeunes, va devenir Étude Books, que la partie direction artistique va devenir Étude Studio, et voilà, et on lance Étude en septembre 2012. Et puis depuis, à la base, Paris, à Paris et à New York. Moi, je suis là-bas. Le reste de l'équipe est basé à Paris. Et voilà. Et maintenant, on en est là, quoi. Voilà, c'est pour faire un peu l'historique entre 95-96 jusqu'à 2012.
Ouais, c'est fou. Et à l'époque, vous vous inspirez de, vous êtes inspiré par quoi, par qui moi, ça me rappelle un peu des Acne Studios. Ça me rappelle des factories, enfin j'ai l'impression que c'est une
j'ai pas entendu le deuxième nom, pardon.
La factory de Andy Warhol, etc. Ouais. Vous regardez quoi à l'époque pour vous inspirer de ce fonctionnement?
Nous on regarde beaucoup les mouvements artistiques. Des choses comme le Bauhaus par exemple.
Oui, c'est vrai.
Où on se dit c'est un regroupement de créatifs mais qui ont envie de travailler avec l'industrie, qui ont envie que ce qu'ils font existe dans la société. Donc voilà, on réfléchit toujours à travers le filtre de l'art, donc c'est un peu ça qui nous inspire. Après, pour revenir sur des choses qui sont plus proches de nous, le travail de Comme des garçons, par exemple, est quelque chose qui nous plaît, parce que le fait d'avoir un magazine, de faire des installations avec des artistes, de faire à la fois des collections très avant-garde, mais aussi réfléchir à des projets, à des produits que les gens peuvent consommer plus facilement, Dover Street Market, tout cet environnement-là de l'édition. C'est des choses qu'on regarde, même quelqu'un comme Agnès B. En France, plus proche de nous, comme elle travaille avec les graffiti artistes ou les réalisateurs de films qu'elle implique autour de ses collections, mais aussi autour de la galerie du jour. C'est des choses comme ça qui nous inspirent, où on se dit il y a des gens qui prennent ces risques là pourquoi nous on le ferait pas, mais à notre manière, en 2012, avec une énergie et surtout pour parler à une génération qui est la nôtre, en fait, parce que c'est des exemples de gens qui sont d'une autre génération. Ouais. Donc voilà, après, dans des choses un peu plus proches de nous, des gens comme Bless, qui sont très proches de la pièce, presque de l'édition d'art, mais liée à la mode. Ouais. Quelqu'un comme Henrik Vipskov aussi, ou qui veut faire des happenings, ou être proche du théâtre, mais qui fait des collections. Voilà, donc on a comme ça différentes personnes qu'on regarde et qui nous inspirent, mais qui sont comme des gens qu'on imagine, qui nous donnent confiance, en fait. On se dit il y a ces gens qui prennent ces risques là, on doit pouvoir le faire. Après, on regarde beaucoup les marques quand on était vachement inspiré dans les années 2005, de toute la culture streetwear, les gens comme Life ou même Supreme, toutes ces choses-là, on se dit il y a quelque chose de super intéressant dans l'idée d'aller explorer le marché différemment, dans la manière de vendre leurs produits, dans la manière de faire des sorties, les collabs, toutes ces choses-là, l'utilisation du branding, le lien à la culture urbaine, le fait d'appartenir comme ça à un crew, à une équipe, c'est des choses qui quand on était plus jeunes, c'était important pour nous, donc on aime bien voir ça se décliner dans le public, en fait. Donc les influences, elles sont assez variées.
Ouais. Raconte-nous les tout débuts d'études. Comment vous présentez le projet à l'époque? Qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi le storytelling? Et raconte-nous les premières années, les premières collections, etc. Moi, je m'en rappelle. Je vous regardais avec des grands yeux ébahis à l'époque. Je trouvais ça vraiment très, très cool.
Nous, je pense qu'on arrive avec un projet où on arrive dans l'idée d'un collectif. Donc, il y a quelque chose où on allie nos forces, nos savoir-faire. Donc, c'est pas la figure d'une personne, c'est vraiment la notion d'un complément, d'un travail ensemble, l'idée de partager des idées. Donc, on arrive, on se présente comme ça, en fait. Souvent, on a trouvé une force dans le fait de, comme ça, travailler ensemble, et on se présente comme ça, comme quelque chose d'atypique, en fait, dans la manière de revoir le système, en fait, de réfléchir autrement. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on se présente. Après, Après, effectivement aussi, il y a un deuxième layer qui va être celui de la multidisciplinarité,
ouais.
où on ne se présente pas que comme une marque de mode. C'est vraiment important pour nous de, voilà, d'avoir d'autres activités, de faire des collaborations, travailler avec des designers, travailler avec des musiciens, travailler avec des artistes, faire des éditions de livres. Ça, c'est important pour nous. Et de ça, tout de suite, ça nous démarque, ouais. ça nous positionne. Et c'est des choses qu'on établit dès le début et qu'on se dit qu'on va garder et qu'on a gardé. Donc ça, c'est vraiment une fierté pour nous. Après, il y a l'idée d'être très créatif, de proposer des projets qui sont ambitieux, qui sont surprenants, qui sont engagés. Donc il y a toujours dans les choix de ce qu'on fait, de ce qu'on présente, un message, ou en tout cas, il y a toujours une lecture possible. Donc après, elle est jamais imposée, elle se veut assez subtile. Mais il y a toujours comme ça du sens dans ce qu'on fait. Et dans cette idée-là, on a le sentiment de sortir de ce qui se fait, où on a l'impression qu'il y a plutôt une habitude à ce que les marques fassent des choses, produisent des choses, sans que forcément il y a toujours une histoire à chaque fois. Nous, on essaye de mettre une histoire un peu dans tout. Et que certains clients vont d'abord aimer le produit pour ce qu'il est, et puis d'autres, s'ils ont envie, peuvent aller un peu plus loin. Et puis être curieux de savoir pourquoi on a fait tel projet, telle collaboration, ou pourquoi on a utilisé telle matière. Voilà, on essaye comme ça de se présenter avec un certain engagement dans ce qu'on présente. Et puis toujours cette idée d'être que ce soit accessible, c'est-à-dire que les gens puissent porter le vêtement, que ce soit pas quelque chose d'élitiste, d'importable, voilà, que ce soit créatif, accessible. C'est comme ça qu'on se définit et c'est comme ça qu'on essaye de développer nos collections.
Il y a plein de questions qui me viennent. La première, c'est peut-être qu'avant, j'aimerais bien que tu reprennes un petit peu les différents milestones et les différents moments clés de études studio, de études dans l'évolution. Enfin, au début, vous défiliez pas. Tu as ce genre de choses, ce genre de sujet.
Ben, je pense que très vite on définit les gammes, un peu comment vont être construites les collections. Ça, c'est toujours quelque chose d'assez important. Donc au départ, on fait que de l'homme. On se rend compte très vite que y a une grande partie de la personne qui achète du étude, ce sont des femmes. Donc ça, c'est un truc qui est assez important, parce que nous on dessine pour tout le monde, mais on sait pas forcément si ça sera le cas, mais on se rend compte que ça réagit de cette manière-là. Donc ça, c'est une chose importante.
Vous en rendez compte dès le départ, ça?
Oui, tout de suite. Ouais. Tout de suite.
Les femmes viennent acheter chez
vous. Les femmes achètent des produits pour elles.
Qu'est-ce qu'elles aiment chez vous?
Bah, elles aiment justement les volumes, elles aiment le côté décontracté des produits, elles aiment cet esprit justement pas trop masculin qui est étude. Il y a quelque chose de très dans cet aspect créatif. Ça parle finalement à tout le monde. Le fait de faire des livres, c'est pas plus pour les hommes que pour les femmes. Voilà, je pense qu'elles aiment ce côté contemporain, tout simplement. Une marque de maintenant qui réfléchit à faire des vêtements et qui se rend compte que un vêtement, il peut être aussi bien porté par un homme que par une femme. En tout cas, c'est comme ça que nous on le voit. Donc naturellement, ça se définit. Après c'est l'idée de la distribution, c'est comment on va vendre. Alors on se dit on veut être sur internet, via notre site de e-commerce. Donc tout de suite, ça, dès le début, dès qu'on lance étude, les produits sont accessibles worldwide. Donc ça, on se met pas de limitation. On veut que les gens puissent acheter du étude partout.
Ouais, surtout que vous étiez, toi t'étais encore à New York à ce moment-là.
Et j'étais à New York à ce moment-là. Donc on est dans cette vision d'un projet global.
Paris, New York.
Voilà, qui se vend en Asie, qui se vend aux États-Unis, qui se vend en Europe. Donc ouais. Ça, on se pose même pas la question, c'est une obligation, quoi.
Ouais.
Après, le wholesale, c'est hyper important pour nous, parce qu'on a toujours fonctionné, c'est comme ça qu'on vendait, qu'on diffusait notre produit finalement. Donc ça, naturellement, et puis on a Antoine qui est chez nous, qui s'occupe de ça. Donc voilà, tout est là, tout est organisé pour pouvoir vendre à travers le monde aussi. Et puis après, assez vite, un des premiers milestones, c'est l'ouverture de notre boutique ici, au 14 rue de Bellem. en mai 2015. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment très important pour nous parce que du temps de X7, on n'avait pas de boutique et on avait ouvert une à Grenoble, mais c'était il y a très longtemps. Donc, je tiens à le dire parce que autrement, on va dire que je dis pas les bonnes choses, mais on n'avait pas de boutique pendant très longtemps. On a ouvert notre première boutique réellement avec Etude, donc en mai 2015. Mmh. C'était hyper important pour nous parce que pour nous, Etude, c'est quelque chose c'est un lifestyle. Donc, il faut un espace, il faut voir les produits en vrai, il faut voir tout, toute la collection. Et puis surtout, l'idée de cette dimension artistique, donc avec, le fait de travailler avec des archis sur le design intérieur, le fait de comment on va présenter les produits, comment on va dynamiser l'espace avec des expos, avec des signatures de livres. Mmh. Voilà. Sans ça, on faisait toujours des projets, mais on allait toujours le faire chez des partenaires, chez des autres, Colette, par exemple, ou Yvon Lambert, ou The Broken Arm, on a pu faire ça avant et c'était super, mais c'est vrai que du coup de se dire on a notre propre espace, ça c'est quelque chose qui a été clé dans notre développement. Après, un deuxième milestone, effectivement, tu l'as mentionné, c'est notre premier défilé.
Ouais.
Où là, clairement, c'est un choix, quoi. C'est soit tu défiles, soit tu défiles pas. Accéder à la Fashion Week parisienne, c'est tout un process. Ça se fait pas comme ça.
Explique-nous quel a été votre process pour vous.
C'est quasiment du parrainage ou de l'accompagnement pour rencontrer les personnes qui s'en occupent, qui ont entendu parler de nous, mais qui veulent en savoir plus, et puis qui à un moment te disent « Ok, si vous voulez défiler, on vous donne la possibilité d'eux, on serait ravis d'eux, et c'est un honneur pour nous, parce que finalement, c'est aussi une manière de d'être vraiment impliqué dans le milieu de la mode. Je pense qu'Etude est tellement... a tellement un fonctionnement
versatile
ou hybride, même si le mot est un peu péjoratif, mais nous, moi, je le vois au contraire de manière très très positive. Le fait de défiler nous implique vraiment
et
nous permet vraiment de présenter les collections dans le cadre qui est le plus conventionnel quelque part qu'il soit, mais à notre manière.
Ouais.
Donc ça, le jour où on fait notre premier défilé, c'est incroyable. On est pas tout à fait prêt, hein. C'est notre premier défilé, les équipes sont toutes petites, donc le fait de montrer, il y a une énergie qui est à vif, quoi. Ouais. Il y a pas de filtre, on y va, on fait comme on peut, et ça se passe super bien, on a des super retours, nous on est très contents de ce qu'on a montré, on garde un super souvenir. Maintenant les défilés qu'on fait sont organisés différemment, mais c'était vraiment un moment génial. Et après, je dirais non, les autres dimensions. Après, c'est tous les pop-up qu'on a pu faire. Où ça, je pense qu'on s'est vraiment positionné sur quelque chose de très, agressif ou ambitieux, où on a fait énormément de pop-up, où on est allé explorer des marchés, où on a fait des installations in situ un peu à travers le monde, que ce soit Hong Kong, Séoul, Tokyo, Los Angeles, Londres. Il y avait cette envie que Etude ne soit pas qu'une marque française, parisienne, qui soit connue à Paris et par les Parisiens ou les Français, mais que pourquoi pas en Corée avoir des gens qui suivent Etude, qui nous rencontrent, avec qui on peut faire une collaboration sur place. Il y avait cette dimension de se dire allons explorer, voyons si le marché là-bas est curieux de ça, et on verra si ce que ça permettra de faire, en fait, un peu comme une première étape. Et ça, de 2014 jusqu'à encore là il y a peu de temps, on a fait beaucoup de pop-up. Donc ça, c'est des milestones plus sur la longueur, mais c'est des choses quand même assez importantes et particulières pour
nous.
Ouais. Et puis plus récemment, je pense que le livre Rizzoli, édité par la maison d'édition Rizzoli, qui est sorti donc en septembre 2018, qui retrace tout ce qui a été fait par Etude, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que ça a montré tous les projets entre 2012 et 2018. Donc dans ce sens-là, il y a l'avant ce livre et après ce livre. Et donc là, on débute l'après du livre. Et je pense que ils ont voulu capturer les débuts de ce qu'était Etude, l'énergie des débuts d'Etude. Donc je pense que ça va marquer un peu une étape dans notre dans la suite de notre projet.
Ouais. Comment on parle du livre, mais comment on arrive à faire une collaboration avec cette maison-là d'édition,
avec Rizzoli?
Ouais.
Bah ça c'est simplement un éditeur qui s'appelle Yann Luna, qui travaille pour Rizzoli et qui très vite découvre Étude en mai 2014, je crois, dans un pop-up qu'on fait justement à New York. Et qui vient un événement qu'on fait là-bas, on fait un lancement du magazine Appartamento dans la boutique.
Je me rappelle, tu sais que j'avais visité cette boutique.
Ah, le pop-up de New York.
Ouais.
Voilà, ben ce mois-là, où on est pendant un mois, on prend un espace donc que tu as vu à New York. Lui vient et puis on se rencontre. Il me dit je trouve ça incroyable. J'ai déjà vu un peu, mais là je suis trop content que vous puissiez me montrer toutes vos collections. Restons en contact. Je vais vous suivre. Moi, je viens à Paris tout le temps. Voyons-nous régulièrement. Et puis
c'est un long process, quoi.
Et puis on verra, quoi. Je sais pas vraiment ce qu'il a en tête. Et puis assez vite, il me dit faisons un livre ensemble. Donc je lui dis oui, ok, mais de quoi parlons-nous? Et puis on se voit vraiment régulièrement, hein, tous les 3 mois, on se voit soit à New York, soit à Paris, en fonction des déplacements des uns des autres. Et puis au bout d'un moment, il pose l'idée de se dire voilà, moi j'ai envie de vraiment de parler de vos débuts, de capter l'énergie d'Étude. Lui, il y voit quelque chose un peu comme ça, comme les débuts des premières marques de streetwear ou les marques japonaises. Il parle souvent de ça en disant les marques japonaises qui se lancent et que tout le monde a envie de s'approprier de manière très rapide et qui sont très créatifs, qui prennent des risques, qui sont un peu en marge du système. Il se dit j'ai l'impression que vous avez fait ça, mais à l'européenne ou à la française, et il y a pas, pour lui en tout cas, il y a pas tant d'exemples. Donc il me dit moi je veux faire un livre de ça, où je veux voir tout, toutes vos collections, tous vos livres, tous les graphismes et tout. Donc je dis ok, c'est un peu tôt, mais de faire une espèce de comme ça de rétrospective, pareil, le terme est pas terrible, mais c'est comme ça, quoi, c'est ce qu'il nous demande. Et on se dit bon ok, on est prêt à le faire, mais par contre on veut déjà faire nous le livre, on veut nous faire la mise en page, on veut nous travailler sur le design, et on veut créer du contenu exclusif pour le projet. On veut pas que si quelqu'un s'approprie le livre, achète le livre, voit des choses qu'il a déjà vues ou que tout existe déjà en ligne, quoi. Donc il accepte ses conditions, et puis nous voilà partis presque un an et demi, quoi, de travail, où on crée des séries spéciales de photos, on travaille avec un graphiste qui a designé la typo Étude, mais qui fait toute une série de graphismes particuliers pour le livre. On travaille sur des longs interviews avec Luca Marchetti pour délivrer un texte qui informe sur Étude. La mise en page, l'impression, jusqu'à la sortie, quoi. Mais donc, c'est un projet, de 2014 à 2018, quasiment, on discute. Après, ça s'est resserré sur un an et demi à la fin pour sortir le livre, quoi.
Et ça, au niveau du... Alors, je pense que ça, c'est un kiff extraordinaire pour vous en termes de... Pour vous qui êtes des créatifs, etc. Vous faites un objet qui est magnifique, avec un vrai propos, etc. En termes de business, qu'est-ce que ça apporte de faire un truc comme ça?
Nous, l'intérêt de faire ça, c'est de se dire qu'eux, ils ont un réseau de distribution qui est pareil, worldwide. Donc du coup, c'est de savoir que d'un coup, ce livre va être diffusé dans toutes les grandes librairies, magasins de revendeurs de livres, bookstore, dans le monde, qui vendent du Rizzoli ou d'autres maisons d'édition comme ça, qui sont diffusées en grand nombre. Donc nous, c'est une manière de démocratiser en tout cas le projet, et de se dire que si quelqu'un voit ça à Séoul ou à Stockholm sur une pile, va se dire ah tiens, c'est peut-être j'en ai déjà entendu parler, ou ah oui je... et puis d'un coup va vraiment tout voir, en fait. C'était ça, nous on avait le sentiment de se dire que Étude étant tellement prolifique dans le nombre de sorties, de projets, finalement, il n'y avait que nous qui savions vraiment dans la globalité. Et là, quand tu prends le livre, t'as presque quasiment tout, d'ailleurs 90% de ce qu'on a eu fait jusqu'à une certaine date. Et donc te dire, il y a un endroit où tout est là, et que plus de personnes puissent le consulter. Voilà, l'économie, le business, il est simplement dans la diffusion et l'information pour nous. Après, ça fait sens, quoi, en étant Étude, de faire un livre. Je pense que ils ont proposé à beaucoup beaucoup d'autres maisons historiques, et ils ont édité quasiment toutes les maisons françaises, italiennes, américaines. Ils ont fait des livres sur tout le monde, ouais. Mais des maisons plus jeunes comme la nôtre, il y en a très peu.
Il n'y en a pas, ouais.
Sur des choses plus récentes, mais qui sont quand même plus d'expérience que nous. Ça a été quelqu'un comme Sakai, par exemple, quoi.
Ah ouais, c'est lourd.
Donc voilà, mais c'est des très très belles marques. Mm-hmm. Donc nous, voilà, être associé à tout ça, c'est pareil, c'est un peu engagé, un peu disruptif de se retrouver au milieu de tout ça. Et,
ouais, et puis c'est positionnant, quoi.
Et c'est positionnant. Mmh. Et voilà, et après, nous, c'est vrai qu'au quotidien, c'est un outil qui est super. Dès qu'on mmh. veut parler avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un, c'est le meilleur, c'est le meilleur outil qu'on puisse avoir.
Fabuleux,
quoi.
Ouais. Voilà.
Après, on ne sait pas combien de temps, parce qu'on fait tellement de choses tout le temps, tous les 6 mois, qu'il y a un moment où on aura sorti beaucoup de nouvelles choses. Là, il est encore
up to
date, mais, ouais. Mais on a déjà sorti depuis déjà 2-3 collections, quoi. Donc ça va à une vitesse grand V. Voilà l'idée. Après, je pense qu'étude s'inscrit dans le temps. Et donc, du coup, d'avoir cet objet comme ça qui marque un moment, c'est assez intéressant. Mais on verra dans quelques années.
Ouais, c'est un milestone.
Ouais. Mm. Ouais, comment on le voit, comment les choses auront évolué. Mm. Mais les livres ont cette force-là, en fait, d'être un peu intemporels quelque part. On peut les regarder à tout moment, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis, c'est une façon aussi pour vous de vous rappeler parce que ça synthétise vraiment toute l'ADN et toute l'énergie de l'étude, et dans 10 ans quand vous le regarderez, peut-être que c'est un bon rappel, quoi.
Ah ouais, non, c'est sûr que chaque choix d'image ou de mise en page a été
mûrement réfléchi. Ouais.
Bah oui, nous a permis de se rappeler ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qui a été peut-être plus qui a moins bien vieilli, ou dans un instant T quand on fait la mise en page, c'est dans quoi on se retrouve maintenant, alors que c'est des choses qui ont été faites parfois 5 ans avant. Donc c'est une manière un peu de se replonger dans ce qui a été fait et de se dire, voilà, maintenant que tout ça a été fait, qu'est-ce qu'on veut faire aussi. C'est là dans ce sens-là que le travail, il a été intéressant et un peu perturbant aussi.
Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant?
Je pense que l'idée est de continuer à diffuser. C'est-à-dire que là, on a ouvert une première boutique, on a ouvert un deuxième corner aux Galeries Lafayette en début d'année 2018. Là, l'idée est de continuer à diffuser, donc ouvrir d'autres boutiques à l'étranger, agrandir les collections. C'est sûr que tout à l'heure, je parlais de l'homme, mais depuis maintenant 4 saisons, on a développé la ligne femme. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'est nous-mêmes mis le challenge de développer des produits femmes, donc toujours avec cette idée que la femme chez nous consomme des produits aussi du côté de l'homme. Donc voilà, réfléchir à comment faire de la femme. Je ne l'ai pas cité comme un milestone parce que je pense qu'on est encore dans la phase de recherche et on n'a pas encore vraiment affirmé cette histoire-là. C'est un peu c'est de la recherche, c'est de la recherche pure. On continue à développer cette partie-là. Donc ça, c'est la suite. On va voir jusqu'où on ira. Et puis après, il y a toute cette collection que nous on appelle Étude Blue, qui est plus autour de du branding, autour du graphisme, autour des influences plus sportswear ou streetwear, où là pareil, ça fait depuis 3-4 saisons qu'on l'a un petit peu sorti de la collection qui défile, et où on a tout à faire, et où on est chaque saison on amène des nouvelles recherches, des nouveaux développements, des nouveaux graphismes, mais où on n'a pas encore vraiment défini et affirmé ce que c'était. Donc voilà, sur le produit il y a encore énormément de choses. On présente pendant la Fashion Week la première ligne de lunettes. Donc ça, c'est des choses, des lunettes faites par Étude. Donc on avait fait des collaborations, mais c'est quelque chose qu'on va amener. Sur l'accessoire, la maroquinerie, c'est des choses on a commencé à explorer. On présente toute une petite gamme de maroquinerie depuis quelques saisons, mais c'est vraiment les prémices. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut comme ça aller explorer. Je dirais soit autour du produit, soit autour de la manière de diffuser Étude. Et puis après, il y a toute la dimension artistique qui pour nous est clé, et où on a des envies, on a des idées. Demain, je parlais tout à l'heure de Agnès B, qui a ouvert une galerie. Pourquoi pas demain, Étude ne pourrait pas avoir un espace pour les artistes ou une résidence ou voilà, créer comme ça un projet où on va encore plus loin dans le lien avec les artistes. Voilà, c'est tout plein de projets sur lesquels on échange et tous ensemble. Et sur lesquels la question est de savoir voilà comment quand est-ce qu'on active certains et puis faire les choses voilà progressivement les faire bien voilà.
Comment vous prenez les décisions d'ailleurs, parce que vous êtes quand même vachement nombreux, vous prenez plein de décisions tout le temps. Comment vous réfléchissez tous les trois?
Ouais, tous les cinq. De manière globale, ça va être tous les cinq.
Ouais.
Après, purement sur la partie créative, c'est trois. C'est chacun a ses rôles. Donc, j'ai envie de dire, on se fait confiance les uns les autres dans nos domaines. Donc, en fonction du domaine qui va être activé, il y a quelqu'un qui prend le lead sur un projet. Et donc ça part souvent effectivement d'une discussion collégiale, et puis après quelqu'un dit ok, maintenant je m'en occupe, et puis si tout le monde est derrière, voilà, le projet avance. Et après c'est des points toutes les semaines, de manière très pragmatique, voilà, on se parle tous toutes les semaines. Et après on a des moments où on est tous les cinq aussi, deux fois tous les six mois, voilà, où on passe un ou deux jours ensemble, où on réfléchit à justement qu'est-ce qu'on veut faire. Mais ça, c'est des aménagements qu'on fait, qu'on s'impose pour pouvoir justement avancer de manière
cohérente,
profonde sur le projet. C'est pas les décisions du quotidien. Sur le quotidien, chacun décide dans ses parties, quoi.
Sujet.
Voilà. Et puis après, on fait un gros point par an où on passe vraiment beaucoup de temps, plusieurs jours ensemble, et où on essaye de se dire, on se libère un peu la tête de tout. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait vraiment envie de faire? Qu'est-ce qu'on a fait cette année? Où c'est qu'on a pris du plaisir? Où c'est qu'on a perdu du temps et c'était pas nous? C'est beaucoup de discussions, en fait.
Ouais.
C'est vraiment, on travaille pas dans notre coin. On n'est pas, c'est pas chacun avance dans sa partie. C'est là où le fonctionnement d'études est particulier, c'est que on est vraiment tous ensemble, même s'il y a de la distance, tous les bureaux sont pas tous au même endroit. On essaye vraiment de beaucoup beaucoup communiquer. Voilà.
Trop bien. Tout à l'heure tu parlais de positionnement. Comment vous positionnez dans le paysage de la mode, enfin dans le paysage en fait tout court, parce que c'est assez, en fait non mais la question sous-jacente c'est quand tu fais autant de choses en même temps, que t'envoies autant de signaux, c'est est-ce que les gens arrivent vraiment à vous définir?
C'est pas évident, pas tout le temps. Après nous on se positionne sur deux segments, on va dire. Il y a le segment donc je parlais tout à l'heure créatif et accessible, donc c'est du middle luxury, donc c'est ce qui défile. Donc voilà, c'est des produits haut de gamme, mais qui restent quand même accessibles. Donc c'est des fabrications soit Portugal, soit Italie, avec des matières de qualité, avec des petites productions. Voilà, donc ça va être toute une partie de notre gamme qui est souvent sur hommes et femmes sur ces collections là. Et après on est sur un segment plus streetwear. Contemporary streetwear avec la partie plus étude blue, où là t'es sur un price point peut-être un peu plus bas, des produits un peu plus accessibles, toujours sur du made in Portugal, made in Europe, et où là voilà l'environnement de marque est un peu plus urbain et une clientèle et une cible un peu plus jeune. Voilà, donc
qui votre client d'ailleurs?
Bah nous, notre client, il a entre 18 et 40 ans, quoi. Donc en gros, t'as une clientèle plus jeune qui va peut-être être attirée plus par justement Étude Blue, ouais, ou des produits plus forts visuellement. Et puis après, t'as des gens, une clientèle un peu plus âgée, un peu plus mature, qui va peut-être aller chercher plus des produits haut de gamme, plus essentiels, et peut-être un peu plus cher, quoi. Voilà.
Parle-nous du processus créatif quand vous faites une collection.
Le processus créatif, il commence par une fois de plus, hein, tous nous trois avec Jérémy autour de la table, et souvent on regarde un peu ce qu'on a fait, ce qu'on vient juste de présenter, ou voilà, on part un peu de l'acquis, et on se dit qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a envie d'explorer encore plus? Quelle est la partie, si y a quelque chose qu'on a juste effleuré le temps d'une saison et où on se dit, ah, on aurait pu aller un peu plus loin. Donc souvent, on prend comme ça des axes où on se dit, ah bah tiens, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait creuser. Et puis, on part souvent autour d'une image. On choisit un visuel, une photo, une sculpture, une installation.
Une seule.
Okay. Voilà, qui est un peu notre image guide comme ça qu'on va garder en tête toute la collection, en tout cas sur laquelle après on va commencer à définir des mots, des termes, un environnement de couleur, un environnement de matière. Voilà, on crée un peu tout un mood autour de cette image et autour de cette thématique qu'on a envie d'aller explorer, qui vient comme un complément de la précédente collection finalement. Et puis après, là, on rajoute, voilà, des visuels, des images, des choses qui nous inspirent. Et puis, c'est parti. À partir de là, on crée des coupes, on crée des volumes, on crée des dessins, un plan de collection, on crée des artworks, des graphismes, on fait évidemment les salons du tissu dans lesquels on va, voilà, choisir des matières en fonction de tout ce qui a été défini. Il y a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Au début, beaucoup de directions possibles. Donc, on arrive comme ça avec un panel assez large de possibles. Et puis, là, on édite, on coupe, on affine jusqu'à faire sortir juste voilà, que quelques idées très importantes. Et une fois qu'on a ça, là, on se dit, voilà, ça y est, là, on a les éléments pour définir la collection. Et là, on décline en fonction d'un plan de collection.
Ça
mais
prend combien de temps, tout ça, ce processus-là?
Entre le moment du premier point et puis le moment où on commence vraiment à se dire, là, ça y est, on a un peu tout défini, je pense qu'on est... c'est 2 mois. Voilà.
Et les décisions, parce que encore une fois, vous êtes 3 sur la création. Alors là, j'ai une grande interrogation. C'est comment vous arrivez à vous mettre d'accord, quoi. Alors vous vous connaissez hyper bien parce que ça fait hyper longtemps que vous êtes ensemble, et j'imagine que vous aimez un peu les mêmes choses quand même. Mais enfin, toujours pareil. Dans ma tête, enfin dans la tête de la plupart des gens, je pense, c'est que c'est la vision d'un directeur artistique, d'une seule personne, et c'est lui qui l'impose, et les autres font, quoi.
Ouais, ça c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer parce que nous on se l'explique pas en fait. C'est vrai que c'est un fonctionnement qui a toujours été comme ça et je pense qu'on sait même pas fonctionner autrement. Donc effectivement c'est une question qui revient souvent. C'est simplement qu'on se connaît comme tu dis beaucoup et qu'on a évolué ensemble donc on a les mêmes références. On a le même âge, on vient de la même génération, on a aimé les mêmes choses à un certain moment. Et alors on évolue tous différemment, hein. On est des personnes différentes avec des caractères différents et des sensibilités différentes, mais malgré tout il y a des choses comme ça qui sont communes. Et une fois de plus, c'est une grande part de confiance, quoi. On sait qui peut donner le mot décisif sur une envie, sur une idée. Donc sur la partie thématique, on sait qui va décider. Sur la partie produit, on sait qui va décider. Voilà, on échange, mais on laisse l'autre valider quelque chose, quoi. Il n'y a pas vraiment comme ça de clash, quoi. On est au contraire, c'est un ajout d'idées qui fait qu'on arrive à décider quelque chose à la fin, quoi. Mais c'est une forme un peu particulière, hein. Il n'y a pas de vraies règles, il y a une cohérence quand on cherche une cohérence finale de par la complicité d'idées.
J'ai perdu ma question, mais je vais la retrouver. Attends, je veux bien un verre d'eau aussi. Qu'est-ce qu'on achète quand on achète un produit étude? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, les gens?
Ah, je pense que les gens viennent chercher un produit avec une histoire, un produit avec une image, avec une marque, avec un parti pris qui s'engage dans des idées. Donc ça, je pense que c'est, en tout cas, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'on souhaite. Et puis après, il y a des gens aussi, des clients qui viennent parce qu'ils viennent acheter un produit, hein, tout simplement, qu'ils aiment la coupe, qu'ils aiment la couleur, qu'ils aiment le graphisme. Mmh. Donc après, il y a les, et j'imagine qu'il y a les deux des fois, et que du coup là, c'est un super alignement de planètes. Mais non, ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de porter des vêtements différents, ou qui ont envie de se dire, bah tiens, si j'ai acheté telle veste, c'est parce que ces gars-là ont fait tel projet, et donc du coup, je suis derrière eux, je soutiens ce projet. Ou alors ouais, j'adore ce graphisme. Ouais, voilà, c'est ça, je pense. Mmh. C'est ce que j'imagine. Après, c'est des gens qui sont évidemment la plupart des personnes, et c'est aussi pour ça qu'on a ouvert la boutique ici, c'est qu'on voulait être plus proche des personnes qui viennent acheter les produits. On voulait aussi que eux comprennent mieux qui on était, donc avoir un lien comme ça assez direct. Tu vois, on s'est croisés en bas très simplement. C'était ça aussi l'idée, un peu, que Etude était un peu pas tout le monde savait qui était derrière Etude. Il y avait ce truc un peu nous on demandait, mais on vous voit pas, on sait pas qui vous êtes. Effectivement, on se met rarement nous en avant,
très discret.
Donc voilà, donc il y avait un peu cette idée d'avoir un lieu où tu peux justement passer un moment et venir découvrir tout l'univers. Et donc du coup, nous, ce qu'on a, on s'est rendu compte que c'est beaucoup de personnes, oui, qui travaillent dans le milieu créatif, qui sont soit musicien, soit archi, soit designer, soit qui travaille dans l'industrie de l'art, quoi, dans le milieu de l'art, dans ces milieux-là, donc qui cherchent comme ça des marques qui se présentent autrement, en fait, tout simplement, quoi, qui sont capables d'être agiles avec l'art, avec la mode, avec la musique, et que tout ça soit fait de façon sincère et cohérente. Je pense que c'est la cohérence d'études aussi qui à long terme fait que les gens adhèrent au projet. C'est qu'on a une ligne comme ça, même si on fait des expérimentations au sein d'études, il y a quand même des choses de fond qu'on maintient, et je pense que les gens, du coup, si à un moment ils découvrent, peut-être qu'ils viendront plus tard. Tu vois, c'est aussi sur la longueur, quoi. On n'est pas une marque à buzz, quoi. On n'est pas la marque du moment, le truc que tout le monde doit acheter. En tout cas, c'est pas ça qu'on souhaite faire, quoi. Voilà.
Et les questions que je me pose, c'est quoi l'équation économique de tout ça quant à l'édition. Alors, je sais pas, mais moi je vais faire des gros raccourcis, mais j'ai l'impression que l'édition, c'est très compliqué de gagner de l'argent avec. Peut-être que le vêtement, c'est peut-être un peu plus simple, même si ça reste très compliqué dans un marché qui est saturé de marques, etc. Explique-nous un peu comment vous avez réussi à trouver l'équilibre. Alors, vous avez toujours fait des choses à côté, c'est dans l'essence d'études, mais explique-nous un petit peu tout ça.
C'est sûr que si on remonte un peu dans l'historique, clairement, on a toujours pu financer le projet de par le fait de faire d'autres choses autour. Donc, clairement, quand on faisait de la prestation de service, du design ou de la DA ou du graphisme, tout cet argent-là qu'on a pu facturer était réinvesti au sein d'études. Donc ça, c'était déjà économiquement, c'était un fonctionnement, nous, qu'on avait intégré. Après, oui, clairement, l'édition n'a jamais été pour nous un levier économique. Il y a des maisons d'édition qui existent et qui vivent et qui emploient du monde, mais il faut être vraiment il faut faire que ça. Il faut avoir de quoi investir dans des livres pour avoir plusieurs livres qui sortent régulièrement, pour avoir un fonds comme ça de livres à vendre, et puis sur la longueur, sur la quantité, certaines maisons d'édition existent, et bien heureusement. Mais nous, c'était pas cette vision-là, on était plutôt sur des micro-éditions avec... on sort entre 2 et 4 livres par an, donc c'était pas ça le schéma. Donc pour nous, c'est plus une façon de, comme je disais, de se démarquer, de continuer à être impliqué avec les artistes, de continuer à rencontrer des artistes. Donc économiquement, si on parle de ça, c'était pas ça le qui allait nous aider à continuer. Après, la mode a pris effectivement beaucoup plus de place, et la mode, de par nous, notre champ d'action à multicanal, hein, où on vend à la fois en direct, sur notre site ou dans notre boutique ou en wholesale, nous, on s'est pas limité finalement à ce que la marque puisse être achetable, quoi. Donc on est quand même, c'est cette partie là qui qui à ce jour fait qu'on existe et qu'on arrive à financer notre projet. Depuis, la partie prestation de services pour l'instant et si on parle de maintenant, on l'a beaucoup réduite et la mode suffit à financer cette partie-là. Donc après, on est aussi régulièrement sollicité pour par des marques pour faire des collaborations ou régulièrement sollicité pour faire du placement produit ou des choses comme ça. Donc ça, économiquement, ça aide et ça permet de soutenir comme des sponsors finalement pour des événements qu'on peut faire. Donc ça c'est une autre manière de, mais c'est un petit peu différent par rapport à ce qu'on avait pu faire avant. C'est principalement études qui est le vecteur de fonds pour soutenir le projet études finalement.
Et les moments où il y a eu des besoins d'investissement importants, je pense à la boutique par exemple, comment vous avez fait des levées de fonds, vous êtes passé par ce truc là?
Ouais, on a été obligé de passer par là. Ce qui est aussi intéressant parce que tu te retrouves à devoir rencontrer des personnes qui adhèrent ou pas au projet, et puis surtout c'est savoir comment s'entourer, et aussi cette idée de qu'est-ce que ces personnes-là peuvent amener en complément, en réseau, en relation, en savoir-faire. Donc ça c'était intéressant, et effectivement typiquement l'idée de l'ouverture de la première boutique ou les premiers défilés ont été des étapes clés où il a fallu que nous on intègre des personnes qui ont investi. Ça a été une première levée de fonds et qui s'en est suivie par des plus petites après, mais ça reste des investisseurs minoritaires qui nous aident à développer. Après ça a permis de faire ces choses là, donc on est ravis d'avoir pu faire ça, et au quotidien c'est des personnes avec qui on peut communiquer, qui nous aident, qui nous conseillent, qui nous donnent aussi un peu de leur feedback, qui nous permettent aussi de prendre du recul sur ce qu'on fait, parce que nous on est dedans, on est actifs, eux sont sur le côté du projet, j'ai envie de dire. Et puis après on a des personnes qui sont plus des ambassadeurs qui ont aussi investi, donc je pense en premier ça a été quelqu'un comme Pedro Winter qui a pris une petite participation mais qui a cru en nous et qui nous a donné un coup de push, mais qui au quotidien continue à donner un coup de push en portant ou en diffusant le projet. S'en est suivi quelqu'un comme Woodkid, donc aussi dans la musique, un peu plus tard avec le même rôle, et puis quelqu'un comme Orelsan plus récemment qui a aussi joué ce rôle-là. Donc c'est des gens qui étaient proches de la marque et qui aiment ce qu'on fait et qui ont eu envie de participer au développement du projet et avec qui on échange régulièrement.
D'accord, trop bien. Et quand t'es un pur créatif comme ça, j'imagine que vous avez appris très vite sur le tas toute la dimension business, levée de fonds, mais enfin il n'y a pas que la levée de fonds dans la vie, mais toute la partie développement business quoi. Et souvent on fait le raccourci de dire ok, quand t'es créatif tu peux pas trop toucher à la partie business. Et finalement j'ai l'impression que vous chez Etude vous avez tous un peu le cerveau gauche et le cerveau droit assez développé.
Ouais, non, on est tous très conscients de ça. Après, c'est ce que j'explique, c'est que entre 2000 et 2011, on fait plein de choses, on essaye plein de projets. On est autodidacte. On n'a jamais nous travaillé pour d'autres. On n'a jamais travaillé dans une maison, on n'a jamais travaillé dans une autre entreprise. On a toujours travaillé que pour nous.
C'est l'indépendant, l'indépendance totale, quoi.
Voilà, l'indépendance totale. Et du coup, pas mal de gadins, pas mal d'erreurs, pas mal de mauvais choix, pas mal de mauvaises rencontres, et on a toujours su se relever. C'est-à-dire qu'on a toujours eu la force et l'envie, alors qu'il y a eu des moments qui ont été très difficiles et on pourrait ne pas être là en train de discuter. On a toujours eu cette envie-là, et en fait, souvent, on s'est rendu compte que ces erreurs ou ces mauvaises rencontres venaient du fait qu'on s'impliquait pas dans la partie business. Et en fait, on avait, je pense, et peut-être c'est un conseil, j'en sais rien aux personnes qui écoutent, mais on a eu, nous, la naïveté de se dire « Ah, on est créatif, c'est ce qu'on sait faire, et il y a des gens qui seront business et qui sauront faire. » Ben non. En fait, si tu veux aller où tu veux aller, si tu il faut toi mettre les mains dans ces choses-là, Et en fait, on l'a fait un peu par défaut au début. Et en fait, assez vite, on y a pris goût parce qu'on se rend compte que c'est comme ça qu'on maîtrise notre projet. C'est comme ça qu'on est au courant de ce qui se passe, qu'on comprend, qu'on peut être actif là-dessus. Et donc, c'était ça l'idée, en fait, de Créétude, hein. Quand on est arrivé en 2012, on s'est dit, bon, bah, maintenant, ça y est, quoi. Maintenant, on va vraiment se consacrer autant à la partie créative qu'à la partie business. Avec un garde-fou qui est de se dire, bon, on est quand même des créatifs à la base, donc aménageons-nous du temps ou préservons-nous une certaine énergie pour continuer à être très impulsif, très créatif dans le projet.
Comment
donc
c'est un équilibre
qui c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pareil, c'est difficile de l'expliquer.
Parce que t'as vite fait de faire que du business, quoi.
Tu peux vite tomber là-dedans, effectivement. Ouais. Mais bon, pour parler pour ma part de manière plus individuelle, mais le fait de partir à New York a été quand même une idée de se dire, bon, bah, je pars dans une ville qui est méga créative, alors oui, qui est méga business aussi, mais en tout cas, moi, je suis plus parti en mode, bah, je vais aussi aller me ressourcer dans la ville qui nous inspirait quand on était ado. Et puis, rencontrer plein d'artistes.
Mais raconte-nous ce passage-là, parce que
promener, quoi, marcher dans la ville de New York, pour moi, c'est
ressourçant,
la plus grande inspiration qui peut y avoir en tant que jeune Français qui vient d'une banlieue de Grenoble. Tu vois, c'était un truc. Voilà, donc du coup, ça, c'est une manière de se dire, ok, je me protège et je maintiens une certaine énergie créative. Tout en me déconnectant pas de la boîte que j'ai montée et en venant tous les mois ici à l'époque, tu vois. Voilà, donc voilà, l'énergie, je le trouve comme ça, en continuant à être motivé, en voyageant, en étant à 200%. En fait, c'est ça, c'est, faut être à 200, faut être 100% business, 100% créatif. Donc c'est être à 200%, ouais.
Donc c'est deux journées par jour.
Ouais, c'est ça, ou ça ne s'arrête jamais, en fait, c'est ça, en fait. C'est parce qu'il y a une journée par jour, mais où il y a, voilà, mais ça ne s'arrête pas, en fait. Voilà.
Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, tes journées?
Ça dépend si c'est des journées normales, classiques, j'ai envie de dire, où on est comme ça, ici à Paris. C'est assez classique. Après, c'est quand on est en déplacement, où là, d'un coup, il se passe autre chose. Mais non, c'est assez classique. Ça passe du tout au tout, voilà. Une journée pour moi, personnellement, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de cadre. Je suis jamais arrivé à en mettre un, même s'il faudrait peut-être le faire. Mais en vrai, ça rebondit, voilà. Ça passe d'une décision sur une collaboration à un partenaire commercial avec lequel on va travailler, à une préparation d'un événement, à une réunion avec les équipes, à la rencontre avec un futur projet. Voilà, c'est très 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 divers, et c'est ce qui est d'ailleurs passionnant, hein. C'est ce qui me plaît. Après, j'ai souvent l'impression, et c'est un peu là une réflexion que je me fais, de me dire, je ne suis expert en rien. On est un peu toujours, on découvre toujours des nouvelles choses toute la journée. On fait pas, ne faisant pas une seule chose, il y a toujours un peu ce sentiment d'être, tu vois, novice dans ce qu'on fait. Et c'est pas mal, en fait. Ça amène comme ça un peu de fraîcheur, un peu de naïveté qu'on a besoin, plutôt que quand tu maîtrises quelque chose parfaitement. Nous, quoi, moi, j'ai toujours eu le sentiment que finalement c'était un peu ce qui tuait la spontanéité, et donc du coup rend le truc un peu trop poli et maîtrisé. Donc voilà un petit peu une journée, elle est toute, c'est beaucoup de réactivité. Ouais.
Et t'as pas une méthode pour être hyper hyper carré et être toujours en avance sur ce qui va se passer, etc. T'as pas développé une méthode, Aurélien?
Non, je pense que j'essaye surtout de pas trop être dans le quotidien. J'essaye de pas être trop sur des petites choses du quotidien et de plutôt essayer de réfléchir de manière plus visionnaire, de plus long terme, et de me concentrer et de passer du temps sur des choses qui vont sortir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Essayer de passer le plus de temps sur ces choses-là. Voilà, c'est ça qui en tout cas je m'impose ça parce que
comment tu sous-traites le enfin tu
bah après c'est les équipes
qui prennent le relais.
Voilà, ouais. on est maintenant une vingtaine de personnes et on a des équipes dans chacun des domaines. Donc je m'adresse à la personne qui est voilà responsable ou qui travaille pour cette partie-là et je lui demande de travailler sur ce dossier-là et puis après on fait des points. Mais moi j'essaye en tout cas de et c'est le rôle qu'on a tous les cinq de travailler sur l'avenir du projet et pas trop être. En fait, on a passé des années à faire les choses du quotidien.
Ouais.
Et là, je pense qu'on est arrivé à un stade où maintenant on réfléchit à la suite, quoi. Donc la méthode, c'est peut-être ça, quoi. Voilà. Mais tout en ne faisant pas qu'une seule chose.
Ouais. C'était quoi les pires moments de l'étude ? Vous avez frisé la catastrophe ?
C'est la saison où on a trop vendu.
Classique.
Classique. Donc oui, non, tu te retrouves avec une super collection qui a beaucoup plu. Et puis, tu as prévu des budgets pour produire, tu as anticipé. Et puis en fait, bah, les budgets, il en faut plus. Et donc, du coup, tu te retrouves à ne pas pouvoir lancer la production. Oui. Donc, du coup, ça, c'est un peu délicat parce que du coup, tu sais, c'est un peu frustrant. Il n'y a pas grand monde qui est là pour t'aider. Les banques, non. Certains partenaires, non. Donc, du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu frustrant. Mais on a trouvé des solutions. On a trouvé des solutions et puis on a fait ce qu'il fallait faire, mais ça a été ça peut être compliqué, ouais, comme problème. Alors qu'on le connaît, hein, ce problème-là, comme je disais, on a fait nos armes avant, mais t'es jamais préparé. Tu crois que tu as fait le tour de la question, et le milieu de la mode est un milieu assez assez difficile et à plein de surprises et avec beaucoup de partenaires, quoi, beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'intervenants. Donc quand c'est pas ça, c'est un problème d'un fournisseur ou c'est un problème d'un livreur, c'est un problème. Donc voilà, donc du coup c'est difficile de maîtriser la chaîne à 100%. On connaît tout ça, mais il y a encore des surprises des fois qui peuvent être fatales. Bon, il s'avère qu'on a passé la vague,
tempête,
et puis
ouais.
Depuis c'est parti, et la saison d'après on a très bien vendu et on a su produire très bien. Après voilà, ça veut pas dire qu'on est sorti d'affaire.
Qu'est-ce que vous feriez différemment d'ailleurs?
Non, je pense que parfois on a tendance à faire beaucoup de choses et peut-être être un peu plus parfois être un peu plus sélectif dans certains projets dans lesquels on s'engage, voilà, peut-être ça, voilà, si on avait pu un peu ou si voilà, peut-être arriver à être encore plus sélectif, ouais, proposer un peu moins de choses et un peu plus approfondi, voilà. Mais je pense que c'est un rythme, hein, qu'on a et qu'on aime entretenir, mais voilà, peut-être voilà, arriver à savoir se maîtriser dans la densité.
Toi qui es dans l'industrie de la mode depuis un petit bout de temps, comment tu vois les choses évoluer, toi, dans le futur?
Bah, je pense que ça va très vite, hein, ça évolue à une vitesse, voilà, ces dernières années ou saisons, c'est allé très vite, les choses ont beaucoup changé. Je pense que le rapprochement du streetwear et du luxe, là, ces dernières saisons, a été quand même assez frappant. Nous, on a toujours fait du streetwear et on a toujours été intéressé par la dimension mode. Donc, j'ai envie de dire, c'est un super timing pour nous, même si on est en face de marques ou de sociétés qui ont une puissance qui est encore différente. J'ai envie de dire, en tout cas, les choses se sont un peu dirigées vers ce que nous on a toujours fait, quoi.
Ouais.
Donc on est hyper légitime là-dedans et on est ravis, en fait, quoi, quelque part. En tout cas, c'est un moment où les gens regardent ce qu'on fait. Donc ça, c'est un super timing. Après, je pense que les plus grosses évolutions, elles vont être là, elles vont être avec les groupes qui voilà, qui investissent, qui font des choix, je pense, assez audacieux et surprenants, et qui sont assez visionnaires, je pense, quand même, dans ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que ça laisse derrière pour les gens qui ne sont pas dans les groupes, justement? Comment, en tant qu'indépendant, on peut exister? Après, c'est une histoire d'échelle de marque. Quand on est petit, c'est super, ça excite la presse, ça excite les acheteurs. Après, il faut grandir, vendre plus. Tu arrives à une certaine échelle, et puis est-ce que tu restes à cette échelle-là, et est-ce que économiquement, intellectuellement, c'est intéressant, ou est-ce que si tu veux franchir ces étapes-là, comment tu y arrives par toi-même, quoi, ou est-ce qu'il faut trouver forcément des partenaires? Donc je pense que c'est un peu, voilà, la question, c'est
si vous en êtes aujourd'hui un peu, non,
c'est là où on en est. Après nous, on a déjà fait le choix de grossir et de grandir. On n'est pas émergent, on n'est pas non plus dans un groupe, on n'a pas un fonds d'investissement derrière nous. Donc oui, c'est un peu là où on en est. Après,
mais vous seriez ouvert de faire rentrer quelqu'un chez vous de façon plus importante?
Nous, on est ouvert, dans le sens où, c'est ce que je te disais, diffuser plus, que la marque soit plus accessible, en tout cas plus diffusée. On est plutôt ouvert, c'est le fond d'études, hein, l'idée que demain il puisse y avoir une boutique,
à New
plusieurs
York,
boutiques
à Londres,
en Asie,
à
New York, à Londres, comme tu dis, ça nous semblerait totalement logique, hein, ouais. ce qu'on a mis en place pourrait se décliner, même si on ferait les choses de manière individuelle à chaque fois et dédiée. Oui, pourquoi pas, ça pourrait exister, en tout cas on imagine que ça puisse intéresser le plus grand monde. Donc non, on n'est pas contre. Après, ce qu'on veut faire, c'est, on aimerait le faire de manière, avec le bon partenaire, et surtout de manière progressive. Mais l'idée est pas de stagner à là où on en est maintenant. Je pense que là, on est arrivé à un stade où, c'est soit on avance, soit c'est la pause. Mais la pause nous intéresse pas, quoi.
Ouais.
Voilà. Il aurait fallu ne pas en arriver là. Il aurait fallu s'arrêter avant et avoir une plus petite équipe, quoi. Voilà. Mais donc non, l'avenir du marché de la mode, il est redistribué un peu en ce moment.
Et si vous aviez l'opportunité de recommencer quelque chose de nouveau aujourd'hui, vous feriez quoi?
Recommencer quelque chose?
Ouais.
Je me pose pas trop la question, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Donc on a le sentiment qu'on peut recommencer quelque chose, en fait.
Ouais.
Tu vois, tous les jours, quand on fait des choix de tel... En fait, tous les 6 mois, on recommence. Donc c'est pour ça que je me pose pas la question. Tous les 6 mois, on fait une nouvelle collection.
Et puis vous êtes sur un truc qui est tellement ouvert, en fait, que vous n'êtes pas enfermé dans quoi que ce soit, quoi.
Non, c'est pour ça que je pense que on a la possibilité de se la poser tout le temps, cette question-là. Mais du coup, il faut pas qu'on recommence trop de manière différente, tu vois. On essaye aussi de garder une certaine ligne. Voilà. Donc c'est un peu on a cette chance là, je pense. Mais c'est aussi, il faut arriver à garder une ligne directrice.
Très cool. Écoute, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble.
Ok.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets que t'as envie d'aborder, t'as envie de creuser, d'approfondir ensemble?
Non, je pense qu'on a fait le tour de la question, en tout cas pour aujourd'hui.
Ouais, ça pourrait durer des heures. Non, moi j'ai toujours deux, trois petites questions. Si tu avais l'occasion là de recroiser Aurélien dans sa banlieue de Grenoble, qu'est-ce que tu lui dirais?
Il y aura beaucoup de vagues. Est-ce que t'es sûr de vouloir y aller, quoi? Mais
qu'est-ce que t'aurais fait si
t'avais fait ça? Personne nous a rien dit, en fait, mais tant mieux.
Ouais.
Et c'est pour ça, peut-être je lui dirais pas, en fait. Non, qu'est-ce que je lui dirais? Non, je sais pas.
Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça a été difficile quand même. Enfin, il y a eu des moments très compliqués. Mais en même temps, t'en parles avec tellement de simplicité et de zénitude que ça s'est fait, quoi.
Ouais, non, carrément. Mais je sais pas, peut-être qu'on est un peu maso. non, on a une force en nous, on a une vraie envie de faire des choses, en fait, c'est ça. Après, te dire d'où ça vient, je pense que c'est l'énergie du groupe chez nous, tu vois, qui fait que quand il y en a un qui est un peu plus
down,
ouais. down les autres remontent. C'est quand même dans des, tu vois, des couples ou des équipes. Donc voilà, donc d'un point de vue individuel, je pense que peut-être j'aurais fait les choses différemment, tu vois, dès le début, en fait, j'aurais pris un autre chemin. Si... Mais il s'est avéré que, voilà, que toutes ces années, on a travaillé ensemble. Et donc du coup, oui, dans la difficulté, on se retrouve. Et puis non, puis après, il faut remettre dans le contexte. On fait quand même ce qu'on veut. On fait quand même le travail qu'on aime. On a allié... art, mode, édition, musique, design, qui sont des choses qui nous nourrissent, nous,
qui
au quotidien.
Ouais.
Moi, j'ai pas de, tu vois, je suis.
Tout
je
va
suis
bien,
ravi,
quoi.
Ouais, ouais, non, je suis ravi de tout ça, et je pense qu'on mesure tous la chance de faire ça. On est très fiers des équipes qu'on a. On est très fiers d'avoir un groupe autour de nous, d'avoir emmené comme ça avec toutes ces années plein de gens dans l'histoire étude qui depuis pour certains ont fait leur chemin de leur côté, d'autres sont restés ici. Ça c'est un accomplissement d'un point de vue une fois de plus intellectuel, social, qui est énorme. Et moi ce que je disais, je réfléchis à la suite. Donc c'est de se dire demain qu'est-ce que ce sera. On est 20 aujourd'hui, combien on sera, qu'est-ce qu'on va faire. Moi c'est ça qui m'excite et donc dans ce sens-là, oui je suis ravi et j'en parle avec plaisir. Après ouais non ça s'est pas fait comme ça, ça nous est pas tombé dessus. On vient pas de ces milieux-là, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas de connexion avec le milieu de la mode au début. On était les petits nouveaux, on faisait pas vraiment de la mode. Donc on a fait que continuer à travailler et à proposer ce qu'on est, quoi. Et puis voilà, à force, avec le temps, avec l'énergie, avec la qualité, je pense, des produits qu'on,
ouais,
des projets qu'on, qu'on propose, ben, on est là, on
ouais,
existe, on est dans le paysage
qui,
des marques. Mais après, si tu regardes réellement, les collaborations avec lesquelles on a, les gens avec qui on a travaillé, que ce soit, Adidas, The New York Times, Carl Cani, les artistes comme Henry Taylor, Dyke Blair, Marc Gonzalez, Kissa Ring. Tu vois, tu te dis, bon, quelle autre marque française qui a 6 ans a fait des choses aussi...
aussi costaud. Ouais.
Aussi costaud. Donc ça fait que...
ça crée beaucoup d'énergie. Ouais.
Voilà, ça crée une énergie qu'on a... Voilà, c'est enrichissant. Tous ces gens-là que je cite, c'est des collaborateurs, c'est des gens qu'on a rencontrés, c'est du réseau. C'est génial. C'est génial.
Et comment tu les convaincs, tous ces gens ?
Sur le projet.
Ouais.
Sur le projet, sur ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire ensemble. Nous, on est assez, assez pragmatiques. On leur écrit en leur disant, on a pensé à ça. Puis on leur montre un truc, tu vois, un sketch, un mock-up de quelque chose. Et puis, on leur donne le contexte tout de suite. On leur dit, voilà, ça va être présenté à tel moment. Le budget, c'est ça. Les investissements de com, de ci, c'est ça. Nous, on peut amener ça. On pense que vous pouvez amener ça. Et puis après voilà, nous on a tellement été contactés en tant qu'artistes, en tant que créatifs sur des projets qu'on aime bien quand on a comme ça un peu une vision globale de ce que ça va être, tu vois. Donc on fait la même chose pour les autres, tu vois, on leur donne toutes les clés et on leur dit est-ce que vous avez envie de le faire ou pas, quoi. Voilà. Puis à partir de là, une fois que c'est oui, là c'est on rentre dans une phase de production, mais c'est assez transparent en fait. On essaye d'être le plus clair dès le début. Et souvent, ça fonctionne. Puis les gens, ils se disent si un tel me contacte, c'est qu'il y a une raison. Donc tu vois, ils sont excités de se dire attends, parce que nous, on fait des choix un peu, comme je te disais, audacieux, bizarres. Donc on va pas contacter les gens les plus convenus, tu vois. Donc ils reçoivent pas tant de demandes que ça. Donc je sais pas, quand on va voir Taxi Girl, quand on parle avec Mirwais, par exemple. Il nous dit c'est génial, quoi. On m'a pas, j'ai peu de demandes sur Taxi Girl. Si vous avez pensé à moi, c'est que vous aimez vraiment le groupe, quoi. Et on lui dit ouais, carrément à fond. Donc là, du coup, tu vois, il y a tout de suite un intérêt quand on parle avec Smiling Sun, qui est le logo anti-nucléaire des années 70 et qu'on se dit on va leur, on les contacte pour faire une collection avec de, leur branding quoi, leur logo. Pareil, tu vois, c'est tellement décalé comme choix que ils sont curieux de faire ça. The New York Times, pareil. Voilà, donc on souvent on propose. Voilà, on propose un projet quoi.
Faut être force de proposition. Eh ben écoute, c'est sur ces mots qu'on se quitte. Dernière question quand même, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Ah oui, ça c'est la question
qui revient.
Régulière. Écoute, je pense que tout à l'heure je parlais de Luca Marchetti par exemple qui a écrit le texte du livre et donc qui est un professeur dans une école de mode à Montréal. Mais qui est à la base basé à Paris. Je pense que lui serait quelqu'un d'intéressant à interviewer parce qu'il a vraiment une analyse sur la mode et sur l'art et sur les marques qui est hyper hyper intéressant. Donc ça pourrait être, je pense, quelqu'un d'intéressant.
Eh ben merci infiniment. J'ai passé un super moment avec toi. Bonne chance à Étude et bonne chance à toi.
Merci Adrien.
Salut.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.